السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être réunis ce jour dans cette mosquée bénie, cette masjid al-Mubarak. La seule chose qui nous réunit cet après-midi, la seule chose par laquelle nous nous sommes déplacés, c'est iradatu wajhillah. Nous recherchons le contentement d'Allah Azza wa Jal. On est dans un week-end prolongé, on va dire. On aurait pu être chez nous, on aurait pu profiter justement de ce temps dans le mois de Ramadan pour se reposer. Mais alhamdoulilah, on est là. Pourquoi? Parce qu'on a envie, d'apprendre un peu plus de notre religion. On se mobilise pour assister à un programme en espérant retenir ce qui nous permettra, inshallah, de mieux pratiquer notre religion et de mieux adorer Allah Azza wa Jal. Hier, samedi, vous avez écouté un programme de qualité, un programme de haut niveau, mashallah, concernant la façon d'accomplir les bonnes actions. Donc vous étiez présent samedi, mashallah, après Zohor, et vous êtes de nouveau présent dimanche après Zohor. C'est vraiment un mujahada, c'est un sacrifice, c'est un week-end prolongé consacré au ilm, à la connaissance religieuse, qu'Allah vous accepte et vous accorde ce que vous recherchiez à travers ce sacrifice. Et qu'Allah récompense également le responsable de cette mosquée, de toutes les mosquées de l'île où on organise le dimanche des programmes, il y a une logistique, il y a une mise en place, le fait de contacter des gens, tout ça c'est une organisation. Et l'objectif c'est de permettre aux musallis de réactualiser le iman, d'apprendre un peu plus et que nous puissions tous avancer un peu plus dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Ce que je veux dire c'est que cette assemblée là, si on est là maintenant, celui qui se déplace, celui qui vient d'en face ou d'une autre ville, c'est une assemblée très sincère. On n'a rien d'autre à gagner. Il n'y a rien à valider, à gagner, il n'y a pas de points, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Si on est là, c'est pour Allah. Et j'aimerais que chacun recentre son niyyah. Et je le fais en premier. Même si parfois notre esprit a tendance à vagabonder, à divaguer, on pense à mille et une choses, on essaie de se recentrer. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je à cet endroit? Je suis là pour écouter un maw'iza, un rappel, afin que, inshallah, je trouve peut-être à travers un verset du Coran, peut-être à travers un hadith, une petite étincelle de foi. Et vous avez le fait de se déplacer, de venir à la masjid, on a fait un pas vers Allah. Le prophète stipule dans Hadith Qudsi, Allah Rabbul Izzah dit que celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Métaphore, on comprend à travers cet exemple que quand on fait un premier pas, Allah Rabbul Izzah nous ouvre deux fois plus les portes du Qaboul, de l'acceptation. Donc là, toutes les personnes qui sont présentes, vous avez tous fait un premier pas en faisant l'intention, je vais m'asseoir à une assemblée religieuse. Sachez que vous avez été accepté par Allah et qu'Allah peut vous donner deux fois plus que ce que nous méritons, et Allah seul sait qu'est-ce qu'on mérite. Donc essayons de recentrer maintenant notre intention. J'ai envie d'apprendre un peu plus de mon dîn pour essayer, inshallah, d'avancer. Chers frères et sœurs, nous sommes le 18e Ramadan, c'est bien ça, 18e Ramadan 2021-1442. Quels sont les bienfaits qu'Allah nous a accordés jusqu'à maintenant? Vous savez, les jours s'enchaînent. Tout le monde dit que le Ramadan passe très vite. Dans quelques jours, on sera dans la dernière décade. Et parfois, il faut arrêter d'enchaîner, d'avancer la tête baissée. Et parfois, il faut un peu méditer et se rappeler de ce qu'Allah nous accorde comme bienfait pour justement prendre considération de ces bienfaits et apprécier. Quand on dit que le temps passe vite, ça veut dire que ce qui reste est moins important que ce qui est déjà passé. C'est-à-dire que dans deux jours, un jour, on entre dans la dernière décade, et il faut être capable d'apprécier l'instant présent, ce qu'Allah nous accorde à l'instant T. Alors justement, des fois, il est nécessaire de poser plutôt que de foncer et d'essayer de regarder qu'est-ce qu'Allah m'a déjà accordé, qu'est-ce qui est certainement déjà écrit dans mon livret de compte après 18 jours de somme, de jeûne. En fait, il y a déjà, subhanallah, 18 sehri, 18 suhur, repas du matin, qu'on a fait en compagnie des anges, des malaïkas. Le frère Lédia des Hurayn, on va pas trop vite, en compagnie des malaïka, des anges. Parce que le prophète dit que quand le jeûneur se réveille pour le repas du matin, les anges sont présents et font doua pour lui et istighfar pour lui. Donc on a déjà eu 18 suhur en compagnie des malaïka et 18 fois ils ont fait doua pour nous et istighfar pour nous. Ça, je dois en avoir là la conviction. Et si je prends conscience de ce bienfait, je l'apprécie. Et si je l'apprécie, je remercie Allah. Le but n'est pas de faire des rimes, je vous promets. Hein. Si j'apprécie, je remercie Allah. Et pour le jour qui va suivre, je vais prendre encore plus considération de ce qui arrive. Ça, c'est parce qu'il y a une réflexion. Autrement, on enchaîne les séries. Il y a demain, que ça, il mange, demain, il mange nan. Le jour d'ensuite, demain, il mange les œufs. Après, il mange du riz curry. Après, il mange le samoussa rassi la veille. Il dit, ah non, le 23e ramadan, il faut manger un samoussa rassi. C'est comme si c'est. Il ne faut pas que ça devienne une routine, qu'on enchaîne des menus. Réalise, tayaqqan, prends conscience que c'est énorme ce qu'Allah est en train de nous accorder. Et donc là, si j'ai pris conscience que j'ai 18 suhur, 18 sehri, et les malaïka, ils faisaient doua pour moi. Des fois, quand on voit un grand bouzrouk, Dieu seul sait qui est le grand bouzrouk, on dit, Moussa, fais doua pour moi et tout. Ben, il va faire. Des fois, il ne fait pas doua, il dit, oui, mais il fait. Il ne fait pas. Mais là, on a malaïka. La yasuna Allah ma amarahum. L'ange n'est pas un hypocrite. L'être humain peut être un hypocrite. L'ange ne décevra jamais son créateur. Ils font ce qu'Allah leur demande. Des créatures de lumière parfaites. Parfaites. Et c'est eux qui font istighfar pour moi. Et c'est eux qui font doua pour moi quand je me réveille le matin. Ainsi donc, demain lundi, 19e Ramadan, quand je me réveille, je prends considération. Comme nous on dit, on fait qadar. On apprécie que, subhanallah, je me réveille, il est 3h45, par exemple, les malaïkas sont déjà là, en train de faire doua pour moi jusqu'à la fin de mon repas du suhur. Prendre considération des bienfaits. On a déjà fait 17 iftar, 17 photos, 17 ruptures du jeûne. Et vous savez qu'à chaque rupture du jeûne, chaque jeûneur a au moins un doua qui est automatiquement accepté par Allah. Ainsi donc, ce soir, quand ce sera mon 18e iftar, je prends conscience, parce que comme je dis, les jours passent vite, et on oublie qu'il y a tellement de trésors de ce mois béni. Ce soir, je vais y penser, même si j'aurais aimé faire l'iftar dans la masjid, avec mes amis, autour d'un kuncha, avec le madja de iftar. Qadar Allah, inshallah, ce sera pour l'année prochaine. Mais même je rompe le jeûne chez moi, je réalise que là j'ai un doua qui va être accepté. Donc maman, il arrête de causer, il ne fait pas des ordres. Là, là, vraiment, chacun se concentre. Prendre considération des ni'mas et ne pas laisser les jours couler. Ce n'est pas que le ramadan est fini, on barre. Hein, on barre encore un trait, une ligne. Enfin, c'est presque comme le prisonnier qui barre les jours, même si ce n'est pas notre idée. Hein. Mais je veux dire, attention, c'est des jours qui filent vite. Ça va trop vite même. C'est une qiyam, on ne va pas ouvrir cette parenthèse, mais c'est une qiyam hein, que le temps passe vite. Et là où on doit être un peu plus vigilant, excusez-moi, je vais dire un truc un peu morbide, hein, c'est Allah nous protège tout ça. Vous savez, avec le nombre de morts qu'il y a avec le Covid, avec des nouveaux variants hein, qui apparaissent, c'est comme une Coupe du Monde. Il y avait l'équipe d'Angleterre, puis il y avait l'équipe de Brésil, bonnes équipes quand même, hein, Angleterre, Brésil. On avait l'équipe de Sud-Afrique, on est un peu plus dans du rugby là. Là, il y a l'équipe India. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Je ne sais pas. À part roti et. Ah oui, cricket. Là, il y a le variant indien. Et vous savez que ça va finir par rentrer. Et ainsi de suite. Ikhwani fillah, akhawat fillah. Allah nous garde sa protection, nous accorde afia, nous protège. Mais je veux dire que la mort n'a jamais été aussi proche de nous. C'est une réalité. C'est morbide de le dire comme ça, excusez-moi. Mais la mort n'a jamais été aussi proche de nous. Et jamais, si on regarde les ihsaiyat, les chiffres, jamais je pense qu'on a eu autant de décès dans la communauté musulmane, mais le taux de décès à La Réunion métropole n'a jamais été aussi élevé depuis les périodes de guerre et ainsi de suite. C'est une réalité. C'est la réalité que toutes les populations, les nations, les civilisations sont en train de vivre, quel que soit le pays. Et personne n'est à l'abri. Ainsi donc, quand je vois ce qui se passe, la situation, les... et ainsi de suite, je dois me dire que Allah seul sait si je n'ai encore le Ramadan 2022, 1440. Allah seul sait. De toute façon, virus, pas virus, personne ne le sait. C'est pas parce qu'il y a un virus qu'on sait moins. Mais je veux dire que c'est un rappel que le nafsin dhaiqatul maut. C'est un rappel que les choses ne tiennent qu'à très peu de choses. En fait, on ne sait pas, une personne est en bonne santé avec vous, le lendemain, a'oud billah, a des symptômes, dans 3 jours, il est en réanimation, dans 4 jours, on dit telle chose, pronostic vital engagé. Tout le monde a vécu au moins un cas dans sa famille ou dans son entourage de situations dramatiques comme ça. Et Allah nous protège. Mais je veux dire, soyons prêts, sta'iddu. Soyons prêts pour affronter n'importe quelle situation de la vie. Vous savez, je sors du sujet et le programme est long. Et pareil qu'on a, on a 60 minutes. Allah mubaraka. On est dans le Mazi Mubarak, donc c'est baraka. Vous savez, à la lumière de... Le verset me revient, on a vu ça récemment. Tout simplement dans le tafsir de Ayatul Kursi, Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Je ne lis pas le verset, vous connaissez Ayatul Kursi. As-Sa'di ibn Kathir rahimahumullah dit, quand il parle de al-urwat al-wuthqa, le lien ferme, dit quand tu es dans le tawhid, tu es dans le droit chemin, tes croyances sont aqida sahiha, authentique, tu as la bonne pratique, c'est-à-dire tu es dans le sirat al-mustaqim, reste accroché à ce droit chemin, reste bien ferme, et quand tu es dans le droit chemin, n'aie pas peur, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui peut arriver de pire que la mort? Qu'est-ce qui peut arriver de pire que la mort? Quoi il peut arriver de plus? On n'est pas dans une situation où quelqu'un va te prendre, va te kidnapper, va te torturer pendant 15 jours. Il n'y a pas. Puis il y a des cas, on a un problème de santé, on meurt. Mais si tu es à la sirat al-mustaqim, tu as agrippé à l'urwat al-wuthqa, quoi qu'il t'arrive, tu es dans le chemin d'Allah, tu as l'agrément et le contentement d'Allah. Donc tu quittes ce dunya, Allahu Akbar, avec le cœur apaisé. C'est-à-dire que on vit une situation, c'est vrai, il y a un contexte anxiogène, on est tous masqués, je suis masqué, c'est très agaçant, j'ai mon masque qui me remonte dans les yeux, c'est une situation difficile tout ça, d'accord? Par respect pour ceux qui sont en face, je ne l'enlève pas parce que voilà, si je tousse et tout, vous connaissez tout ce qui se passe. Bref, je veux dire que dans une situation complexe comme ça, compliquée, du moment que je suis dans le droit chemin, je suis, c'est une expression moderne, en paix avec moi-même, mais c'est pas ce qu'on veut dire, en paix avec moi-même dans le sens où mes devoirs envers Allah sont acquittés, c'est clean, j'ai pas de casar, j'ai, mashallah, je suis plus ou moins à joie dans toute chose. Je ne dois pas d'argent à personne, j'ai fait du mal à personne, et j'avance dans le droit chemin. Quoi qu'il m'arrive, subhanallah, c'est le taqdir et ce n'est que bonne nouvelle pour le croyant. Hada. On a déjà fait, on va accélérer, 360 rakats de taravih. Absolument. Pour ceux qui sont assidus de le 20 rakats tous les soirs, seuls ou en congrégation ou dans des caves ou je sais pas, ou sur des terrasses, 360, mashallah. Mais dites-moi, dans 360 rakats de taravih, combien de Allahu Akbar? Combien de Subhan Rabbi al-A'la? Combien de Subhan Rabbi al-Azim? Ça passe par la tête de les compter. Personne ne compte ça. Mais les malaïkas comptent. Et les malaïkas l'ont déjà écrit. Et le jour de Qiyama, je vais voir ces récompenses le jour de Qiyama. Ça s'appelle Ihtisabul Ajr, l'espoir de rétribution. Je suis persuadé qu'Allah va m'accorder cette récompense. Ainsi, quand ce soir je fais ma tarawih, je lis et ainsi de suite, je me dis que tout ça, ça remplit mon livret d'action. Nombre incalculable de versets qu'on a déjà lus, sachant que chaque lettre vaut 10 récompenses, et ainsi de suite. Ikhwani akhawati fillah, nous sommes baignés de bienfaits. Nous sommes dans les ni'ma et jamais dans l'année, il y a une période aussi illuminée avec autant de baraka. Donc, soyons reconnaissants et faisons le maximum d'efforts pour apprécier ces moments et pour en tirer profit. Ça, le fait que nous trouvons la motivation pour accomplir de bonnes actions, nous sommes présents dans un programme, on peut tenir 20 rakats de taravih le soir et ainsi de suite. Les savants disent que ça fait partie de la hidayah, de la guidée qu'Allah met dans le cœur de chaque croyant durant le mois de Ramadan. Et ça découle également de la générosité d'Allah qui nous donne des récompenses pour des actions qui ne sont pas exceptionnelles. Les actions qui, à notre niveau, ne montent pas très haut, mais Allah nous donne la même récompense qu'il a promis aux sahaba. Vous vous rendez compte? Les fada'il, les vertus qu'on a citées, c'était pour l'ensemble des musulmans. Ce qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, il obtenait en rompant son jeûne, même si mon carême à moi n'a rien à voir, mais Allah me donne la même chose. Et juste pour ça, je dois me montrer reconnaissant envers mon Rabb Azza wa Jal. Et le paroxysme de cette générosité d'Allah, elle se trouve dans la nuit du destin, Laylatul Qadri, khayrun min alfi shahr, et ça, il y aura d'autres programmes, inshallah, je pense, pour développer cette thématique. Chers frères et sœurs, le summum de l'effort, justement, est devant nous. Ce sera dans la dernière décade. Nous avons devant nous les meilleures nuits de l'année qui se présentent, Inch'Allah. Et cette décade, en plus, cette année correspond aux vacances scolaires. Et je m'avance un peu et je regarde mes collègues s'ils ne me contredisent pas. Ce sera également les vacances de madrasa, je pense, hein, dans la plupart des villes. L'intégralité de ces jours de vacances, c'est également vacances de madrasa. Ça veut dire que je vais pouvoir profiter, Inch'Allah. Enfin, on parle, ceux qui sont dans les madrasas, ou les élèves, ou les enfants, les collégiens, les lycéens, ils n'ont aucun engagement, donc c'est vraiment l'occasion de profiter au maximum de cette décade. Et je vais vous poser une série de questions qui touchent la réalité de notre niveau de pratique. Je vous demande, ne le prenez pas mal, je ne porte aucun jugement. Je fais juste, en fait c'est comme si que chacun se pose la question. On n'a pas regardé notre voisin, mais notre voisin a 2 mètres, donc les dieux ont regardé. On n'a pas dit, il parle de où là. Non, non, c'est une introspection. Ce sont des questions un petit peu dérangeantes, mais qui met en avant les faiblesses de notre iman. On est persuadé qu'on est, mashallah, on est au top. On pense souvent qu'on a bien avancé, et voilà, quand on est bien avancé dans notre iman. Mais je vais poser certaines questions qui sont un petit peu délicates et qui nous permettront de comprendre qu'il y a des manquements, il y a des pièces qui manquent de le puzzle de notre iman, et que on va essayer de comprendre ensemble comment remédier à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vous dis la conclusion de cette série de questions, hein, parce que bon, c'est pas, vous allez tous comprendre l'objectif. Vous savez qu'est-ce qui se passe en général dans le Ramadan? J'augmente mon quota de bonnes actions à fond. Dernière décade, j'en fais encore plus. Mais le lendemain de Eid, je reviens au point zéro. Et c'est comme ça depuis, Allahu Akbar, je ne sais combien d'années. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut se réveiller. Il y a un problème. Le croyant, ce qui distingue son iman, et une des qualités intérieures que nous devons souhaiter, c'est al-istiqam, à la fermeté dans les actions. Je ne peux pas avoir une pratique religieuse en montagne russe comme ça, que Ramadan il y a un pic de fréquentation de mosquées et de pratiques, et après le Eid, je retourne comme avant un genre de jahiliya. Un genre de paix et d'ignorance, et je reprends 11 mois de l'année. Si j'ai la chance de faire un hajj, je redeviens au top, mais en ce moment ça va être compliqué, et ainsi de suite. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie de mu'min, ça. Rien du tout. Et justement, si l'ange de la mort vient à une période où on est dans les données les plus bas, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se poser les bonnes questions. On peut vous faire des discours sur plein. Il y a tellement de compétences, Mashallah, en ce moment. On n'a même plus besoin de faire venir des intervenants droite à gauche. Il y a dans chaque ville, Mashallah, il y en a suffisamment. Mais n'importe quel collègue peut vous parler de ce que vous voulez, du Coran, des prophètes, de la foi, des actions. Et là, on écoute et on dit oui, c'est vrai et tout. Mais le problème, c'est que quand le majlis est terminé et quand le mois est terminé, revient comme avant. Et c'est un cycle, c'est un cercle vicieux, et c'est un cycle que nous avons, que nous subissons consciemment ou inconsciemment, Dieu seul le sait. Mais il y a un moment où, quand le Eid est fini, je prends la décision de ne plus me réveiller tahajjud. Oui ou non? Des fois on tient un jour, deux jours, encore un peu josh comme il dit, mais après à un moment donné commence l'arbre le corps. Et c'est que, c'est pas que tu fais pas exprès, hein, c'est que dans ton inconscient tu te prépares à décompresser. Maintenant c'est terminé, on arrête tahajjud. C'est ça qu'on ne veut pas, en fait. Un moment après le Eid, tu te décides à itlaq al-basar. On retrouve une vie normale. Pendant un mois, c'était contrôle du regard. Tellement contrôle du regard que, mashallah, waouh. Regard figé sur le sol, taqwa Allah, magnifique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a enlevé les petits vices là et on recommence à regarder tout et n'importe quoi? C'est, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur qui n'est pas normal. Et je ne peux pas me permettre d'enchaîner les années de Ramadan avec ces mêmes manquements, ces mêmes défauts. Voilà donc mes questions. Comment répondre présent durant les meilleures nuits de l'année? Comment relever ce qu'on appelle un défi spirituel quand je ne suis pas trop habitué à faire ibadat la nuit? Je ne suis pas habitué à faire tahajjud, moi. Et là, il faut passer les nuits. Comment je vais m'en sortir? Est-ce qu'il faudra se faire violence, se booster? Est-ce qu'il faut foncer? Est-ce que mes moyens pour passer les nuits en prière, ce sera du café? Genre à 22h, un ristretto, à minuit, un arpeggio, à 2h du matin, un casar, et à 3h du matin, un Red Bull pour tenir la nuit. Est-ce que c'est ça l'objectif de Laylatul Qadr et des nuits impaires? Pensez-vous qu'Allah, c'est la question, attend de nous, durant cette dernière décade, uniquement une présence physique, juste que je sois réveillé, en train de faire namaz, lecture du Coran, et ainsi de suite. Est-ce que c'est uniquement ça l'objectif? Deuxième question, pensez-vous, deuxième question qui enchaîne avec celle-là, pensez-vous qu'on puisse contraindre le cœur à être concentré dans les nuits de prière? Est-ce que je peux forcer mon cœur à trouver la dévotion et à ressentir l'amour et la crainte d'Allah dans mes tahajjoud dans la dernière décade? Vous savez, un autre membre, le genou, vous avez mal au genou, vous le forcez, il va vous suivre. Il va tenir son talavie, vous aurez un peu mal, mais il suit, parce que c'est un membre externe. Mais tout ce qui est intérieur, et principalement le cœur, sur le plan spirituel, je veux dire, on n'a aucune maîtrise. Soit le cœur est convaincu, soit le cœur n'a aucune lumière. Et si le cœur est dénué de lumière, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez rester éveillé toute la nuit, vos membres vont prier, votre cœur sera à l'ouest. Et ça, c'est khasara, et ça, c'est un réel problème. Lorsque mon cœur n'a pas envie de faire 12 rakats de tahajjud, de lire 3 sipara dans la nuit impaire, lorsque mon cœur n'a pas envie de faire 10 000 istighfar, et malgré ça, je me force à le faire, le travail sera fait, les actions seront accomplies. Mais comme le cœur n'y était pas, est-ce que je retrouve la lumière des bonnes actions? Ce qu'on appelle le halawatul iman, la douceur de la foi. Bien sûr que non. Même si nous serons, inshallah, comptés parmi ceux qui ont répondu présent à la nuit du destin, aux nuits impaires, mais du moment que le cœur n'y était pas, c'est ce qui explique pourquoi, après le Eid, ce même cœur s'enfuit. Après le Eid, ce cœur reprend le contrôle et il ramène ton corps vers les mêmes péchés d'avant. Parce que même si tu l'as contraint, tu étais présent dans ces moments importants, lui n'y était pas. On va dire, oui, mais ça veut dire quoi, lui n'y était pas? Ça veut dire que le cœur n'avait pas cette sensibilité spirituelle. Dans le cœur là, il n'y avait pas d'amour pour Allah. Il n'y avait pas la crainte d'Allah, ce qui fait que, sachant qu'on ne l'a jamais, on ne l'a jamais donné de l'amour d'Allah durant toute l'année, ce n'est pas une période prédéfinie que ce cœur va changer. Est-ce que le cœur ne change pas comme ça? Il faut l'habituer, il faut faire ce qu'on appelle son tazkiyah, sa propre correction, pour lui donner les qualités, ce qu'on appelle les a'malul qulub, les actions intérieures. Je continue. Pensez-vous qu'une action, maintenant, sans présence de cœur, on a bien compris comment ça risque de se passer à chaque fois, est-ce que ce sera une action productive spirituellement? Je ne parle pas d'acceptation, l'acceptation c'est dans les mains d'Allah. Je veux dire, est-ce que ce sont des actions durables? Ou alors, ce sera, j'aime pas le dire, mais un genre de constat d'échec où je produis des ibadas et ensuite je disparais, et là on est à des années-lumière de l'objectif du jeûne qui est la'allakum tattaqun. Je veux dire, quand Allah nous révèle le ramadan, le ta'lil, c'est la'allakum tattaqun afin d'atteindre la piété. Les savants disent que la piété, c'est quelque chose qui s'installe dans le cœur et c'est quelque chose de stable et durable. La piété t'accompagne toute ta vie. Il n'y a pas la piété du ramadan et puis ça disparaît. Non, c'est quelque chose qui doit être en toi. Maintenant, si cette taqwa, elle n'y est pas le lendemain de Eid, c'est que là, tu n'as pas atteint l'objectif du jeûne, même si en apparence, toutes les actions étaient réunies et tu as fait l'effort qui était nécessaire. Alors, ce constat d'échec, ce n'est pas quelque chose d'irréparable. Hein. Ça ne veut pas dire que ton cœur est mort, frérot, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Là, wallah, justement, le but de l'assemblée, c'est comment se remettre totalement à Allah et faire les actions qui nous permettent de trouver l'aide d'Allah, sa nusrat, la lumière et la baraka. Et justement, on va voir que le cumul des bonnes actions, c'est-à-dire mon rituel annuel, n'est pas forcément suffisant, n'est pas suffisant du tout même. Et on va voir quelles sont les actions que je dois faire en amont, quelles sont les qualités que je dois réunir en amont pour que mon tahajjud prenne pour qu'il ait un autre niveau, pour que ma lecture du Coran m'apporte quelque chose qui est supérieur, qui est réel, qui est authentique, m'apporte réellement la halawatul iman, la douceur de la foi. Hada. Ikhwani fillah, les bonnes questions qu'on doit se poser à cet instant, ce n'est pas à quelle heure je vais me réveiller le soir, est-ce que je dors un peu après Tarawih ou je ne dors pas, je commence direct, combien de sipara, combien de rakat, ça c'est une organisation, bien sûr, on va dire sur le papier, je sais qu'est-ce que je dois faire, mais les bonnes questions que je dois me poser, c'est comment changer ce cœur et le faire, trouver la motivation et l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Je dois réaliser que la préparation de cette dernière décade ne se résume pas au nombre de rakat, au nombre de sipara, l'heure où je vais commencer, il y a une préparation du cœur pour que ce cœur soit sincère et surtout réceptif. J'ai besoin d'un cœur qui est réceptif. Et je dois réaliser qu'au-delà de l'accomplissement même des actions, il y a en amont une préparation spirituelle qui permet d'avoir le socle, la base de iman. Et c'est sur cette base de iman que vont s'installer les a'mal saliha. Si j'ai les bases de la foi, qu'est-ce que j'appelle les bases de la foi? Ce sont les fameuses a'mal al-qulub. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion de parler des a'mal al-qulub dans les anciens programmes. Ce sont toutes les qualités de iman qui sont dedans et que personne ne peut voir en regardant son prochain. En regardant notre frère, je peux dire qu'il a une barbe, il suit la sunna, il s'habille de telle façon, il prie, il a peut-être un signe de prosternation, d'accord, il jeûne, on ne peut pas savoir, il lit le Coran. Ça s'appelle a'mal zahira, a'mal, on appelle également aqidah, a'mal bil jawarih, les actions qu'on accomplit avec les membres, ça, tout le monde le sait. Et c'est ce qu'on a appris madrasa. Et très souvent, pour nous, l'islam, c'est ça. A'mal saliha. Maintenant, il y a des actions qui sont plus profondes du cœur, ce sont des qualités de foi, et je crains que ce soit là notre manquement, ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller spirituellement dans l'accomplissement des bonnes actions, que nos bonnes actions, pardon, ne prennent pas l'ampleur et ne montent pas de niveau spirituel. Je vais vous citer quelques-unes de ces actions intérieures, des a'mal al-qulub, mais on ne va pas les développer parce que ce n'est pas le thème du jour. On a la sincérité, l'ikhlas. Et l'ikhlas, ce n'est pas uniquement le contraire de l'ostentation. On résume ça, tu es sincère, si tu n'es pas sincère, c'est par ostentation. Oui, dans la définition des petits-enfants, dans les livres de madrasa, oui, c'est clair. Mais après, si on creuse, si on veut passer à un niveau un peu plus... on creuse un peu plus ilmi, universitaire, ou autre chose, comme vous voulez. Le ikhlas, c'est akhlis al-amal lillah, ahdir niyataka lillah, akhlis hayataka lillah. En parlant de Yusuf alayhi salam, innahum ibadina al-mukhlasin. Le vrai ikhlas, ce n'est pas uniquement que tu fais pour Allah et pas pour les gens. Ça, c'est, on va dire, c'est le premier palier. C'est ce que tout le monde comprend. Mais le véritable ikhlas, la véritable sincérité, c'est que ton cœur est présent pour ton Seigneur. Tu donnes de ton temps et tu as cet éveil de cœur, cette prise de conscience que je me consacre à mon Rabb. Et ça découle du verset en fait, « Wa tabattal ilayhi tabtila » de la surat Al-Muzzammil, c'est que tu te consacres uniquement à Allah. Et c'est uniquement, ça découle du ikhlas. Et que ton cœur est présent, ton nafs et se soumet à ton envie de faire plaisir à Allah Azza wa Jal, et qu'il n'y a rien qui perturbe. C'est vraiment la condition pour que les actions décollent. Parmi les a'mal al-qulub, il y a la dévotion. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Normalement, au premier rang, il faudra ceux qui répondent au verset. D'accord ? Sinon, à Jisab, il faudra. D'accord ? On continue. Je plaisante. L'amour d'Allah, والذين آمنوا أشد حبا لله, حبا لله. Combien tu aimes Allah? Est-ce qu'on est capable de dire? C'est une question qui me met mal à l'aise en fait. Quand quelqu'un dit combien tu aimes Allah, demande-moi combien. Si par là m'a fini, il peut dire vous connaissez mal écrit tout sur mon ordinateur, sur mon. Demande-moi combien zakat me donne. Me dit pas personne, mais il a un gros magot et me donne zakat, mais pas déclaré tout ça. Bref. Mais demande pas moi combien m'y aime Allah, et ça me répond à vous, frérot. C'est dérangeant comme question, parce que c'est cru de le dire, hein, je ne suis même pas sûr que de mon cœur il y a l'amour d'Allah. Il y a les signes extérieurs de l'amour d'Allah, il y a les a'mal zahira, je prie, je jeûne, je lis le Coran. Mais dans mon cœur, est-ce qu'il y a l'amour d'Allah? Alors que dans le Coran, Allah Rabbul Izzah dit, le verset qu'on vient de citer, et ceux qui ont la foi, ils ont encore plus d'amour pour Allah. A'mal al-qulub, ça se développe ça. ça se travaille. C'est pas que je nais avec ou je ne nais pas avec. Non, c'est pas dans les gènes, hein. C'est pas que les grands familles ben, ou papa ne m'ont dit ça qu'on a la mode. Là, wallahi l'azim, abadan. Une personne peut se reconvertir aujourd'hui, rentrer dans l'islam et trouver la mode d'Allah plus que nous. Donc ça, c'est toute une thématique qu'on ne va pas ouvrir, on ne va pas développer. L'envie de plaire à Allah, on appelle ça al-ihsan, le plus haut degré de foi. C'est-à-dire quand tu fais une action, hein, tu le fais mais de façon millimétrée. Pas comme un malade mental qui fait 40 wuzous pour safarullah. Pas comme quelqu'un qui a le tanattu', qui se perd dans les détails parce que Shaitan est en train de jouer avec lui comme un enfant. Il dit, allez, va refaire tes wuzous. Allez, va chercher le bâton. Allez, recommence. Allez, ton linge était sale. Na'oud billah, nasallahu alayhi wa sallam, atal afiyah. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Al-ihsan, c'est être, on va dire, s'appliquer dans les bonnes actions. J'utilise un terme fort, hein? Par ostentation pour Allah. Ça, c'est un droit. Par ostentation, c'est-à-dire que je le fais comme si tu le voyais. C'est-à-dire que quand tu pries, imagine que tu es devant le trône d'Allah et qu'Allah est en train de t'observer. Absolument, tu ne vas pas penser à droite et à gauche à plein de choses. D'accord ? Sache que tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Et ça, on a toujours su qu'il nous voit. On a toujours su. Mais est-ce que quand tu pries, tu réalises qu'Allah te voit ? C'est-à-dire, il y a des liaisons qui manquent, des ramifications qu'on a besoin de recréer, qui nous permettent de relier nos connaissances de base qu'on a appris à la madrasa avec notre iman. Et si je constitue cette lumière de iman, mes actions vont prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, il n'y a que du rituel, il n'y a que des traditions qu'on applique, il n'y a que des actions qu'on répète, ça vient, ça va, ça revient, ça va, jusqu'à ce qu'un jour ça ne viendra plus parce que je serai mort. Et là, qu'est-ce que ces actions auront comme valeur dans le mizan, dans la balance de Qiyama? Dieu seul le sait. Là, on est dans la deuxième étape du programme, après 30 minutes où la barbe monte dans la bouche, et ça c'est terrible. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Parmi les a'mal al-qulub, se sentir tout petit, rempli de tawadhu, d'humilité, quand on est devant Rabbul Alamin. Vous le dites tous, Alhamdulillah, Rabbul Alamin, pense que c'est le Seigneur des mondes, les anges, les djinns, les êtres humains, les sept cieux, les terres, et la reine des Aliques, le Seigneur des mondes, et je suis devant lui. Donc, théoriquement, tu trembles devant ton Seigneur, tu te sens tout petit, il y a beaucoup d'humilité, tu te sens écrasé par le Al-Azim, celui qui est grand, d'accord ? Ça, c'est une qualité intérieure. Avoir l'espoir, Ar-Raja, quand tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu sais que je suis sale, j'ai plein de péchés, je traîne des casseroles et des kunchas derrière moi, tellement j'ai des péchés, j'ai même plus des casseroles, d'accord ? Et donc, malgré ça, Allah m'accepte, je suis là au premier rang. Qu'est-ce que je fais là ? Je ne mérite pas cette place, je suis peut-être le pied de mon affaire parmi cette assemblée, mais Allah me met devant, me ramène dans sa maison. Vous savez pourquoi ? Parce que la prière, elle est adressée à Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Celui qui aime ses créatures, les croyants plus que la maman aime son bébé. Et là, ça fait naître quoi dans mon cœur ? L'espoir. Ça fait partie des qualités des a'mal al-qulub, l'espoir de rétribution, on a dit, et d'autres qualités encore qu'on ne veut pas tout citer, mais j'attire juste votre attention. La plupart des versets que j'ai cités dans les a'mal al-qulub, c'était des versets d'Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout, absolument tout, se trouve dans As-Sab'u al-Mathani, dans Al-Fatiha. Juste à travailler Al-Fatiha, le tafsir, essayer de le comprendre, et on retrouve ces bases de iman. Maintenant, si ces réalités de la foi sont dans mon cœur, imaginez le niveau de ma lecture de Al-Fatiha et comment ça peut m'apporter quelque chose d'extraordinaire. Il faut réunir les actions du cœur pour que le cœur soit présent. Nous devons faire un effort de fond. On n'appelle pas, c'est pas un effort sur la forme, qu'est-ce que je dois produire comme action, mais un effort de fond sur notre cœur à la lumière des versets du Coran. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette assemblée, une exposition. C'est pas une démonstration, mais on va vous exposer certains versets qui nous permettent de nous rapprocher à notre din et qui nous permettront de nous remettre à Allah Rabbul Izzah totalement, réellement, comme les Sahaba le faisaient. Et arrêter de se contenter du mazahir, des choses apparentes. C'est aussi, excusez-moi, mais c'est aussi, on va dire, c'est aussi limité que la personne qui achète un gros bœuf au Bakri, Irfan Patel, on a dit bœuf, il écoute, on achète un gros bœuf d'un tonne 2 et qu'on est tellement fier, on l'expose, tout le monde y vient, c'est comme si qu'on est Imam Mehdi, j'ai amené le plus grand bœuf à la Réunion, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a aucune ikhlas, aucune sincérité, il n'y a rien, il y a juste un esprit de compétition, je ne juge personne. Mais parfois, c'est aussi simple et bête que ça. Que je fais plein de bonnes choses, mais dans le fond, il n'y a, c'est une coquille vide. Et qu'Allah nous protège. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rencontrer Allah avec si peu de qualité de iman. Les sahaba, pendant la première période à Mecca, combien de temps durait la période Mecca? 13 ans. Il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui répond à tout. Inch'Allah, c'est bagay concours Hajj cette année. Hein. Il a commencé concours Hajj en ligne. Et il y aura un Hajj. Hein. Faites Baksa et puis vous allez au Hajj. Sinon, il ne sait pas. 13 ans à Mecca. Pendant les 13 ans, à quel moment la Salah a été révélée? En l'an 10 de l'Ahd Makki, de la période mikwaz. En l'an 10. C'est-à-dire que de l'an. L'an 0, enfin le début d'Arabie, jusqu'à l'an 10, il n'y avait pas d'action révélée. Vous avez dit, mais ils faisaient quoi les Sahaba? Allahu Akbar. Ils étaient assidus à la prière de la nuit, tahajjud, le mujahada, et ils apprenaient le din, ils apprenaient iman. Ces 10 années-là, ils ont cumulé toutes les qualités de foi. Et Ikhwani fillah, vous voulez refaire le même parcours spirituel que les Sahaba? Très simple. Prenez votre Coran, le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Sa'di, quel que soit le tafsir, trouvez un savant, trouvez quelqu'un qui va vous aider et faites le même cheminement de révélation depuis Iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-muzammil al-muddathir sur al-nuh et ainsi de suite, tous les versets qui se trouvent dans Amma, dans Tabarak alladhi, dans Qad sami'a Allah et une partie de du 27e sipara, du 27e juz, vous aurez ce qu'on appelle les sourates makkiyah. Et là, dans ces sourates-là, on retrouve les qualités de foi et dans les autres sifara aussi bien sûr, mais principalement parce que c'était les moments difficiles où les sahaba devaient être fermes pour garder leur iman, et c'est là qu'ils ont appris iman. Et c'est exactement, Wallahu musta'an, ce qui nous manque, et c'est notre objectif. C'est ce que nous devons essayer de faire, parce que le ni'ma, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours vivants. On peut encore attraper les choses, on peut encore augmenter, installer les dieux de façon durable le iman dans le cœur et prendre le même chemin que les sahaba. Ce qui fait que les savants disent, tellement les sahaba ils avaient qualité de iman pendant ces 10 ans, que quand la salat a été révélée, la salat obligatoire, le namaz, la salat a atteint un tel degré. C'était le summum de la salat des ummah, de toutes les prières de cette ummah, et n'importe quelle salat d'un sahaba vaut plus que la salat de toute la ummah réunie, parce que c'était une prière accomplie avec les qualités de iman. Le prosternation avec le subhan rabbi al-a'la dépasse tout ce que nous pouvons produire durant toute une vie. Ikhwani khawati fillah, dans la sourate al-hadid, Allah عز وجل نغيبل عمل من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah عز وجل et devant ce qui est descendu de la vérité. As-Sa'di rahimahullah explique dans ce tafsir qu'Allah رب العزة à travers ce verset demande aux croyants de faire en sorte de s'impliquer dans la pensée d'Allah, de faire en sorte que ton cœur soit rempli d'amour, déborde d'amour pour Allah et fais le dhikrullah. Et Allah n'a pas dit que les croyants doivent faire le dhikrullah. Il y a une nuance entre faire le dhikrullah et que les cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah. Le tafsir est long, vous imaginez, on ne peut pas résumer ça en une seconde, mais ça veut dire que le but n'est pas uniquement de faire la bonne action, c'est de mettre son cœur dans les conditions pour que réellement le cœur ressente le subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, et que nous arrivons à vivre notre demande de istighfar, mais vraiment avec une certaine piété. Mais comment, chaque fois vous regardez, mais oui, comment, on n'arrête pas de dire, il faut. Mais justement, il y a 7 actions à réunir. Et c'est le but de l'assemblée. C'est un peu de mal à décoller, mais ça va décoller. D'accord? Il y a 7 actions à réunir, et on va y arriver. Mais là, on est en train de voir quelques versets qui nous montrent le décalage qu'il y a entre faire l'action et comprendre la réalité de l'action. D'accord? Si je prends un exemple totalement opposé dans le péché, c'est pas aucun rapport avec le majlis, hein, mais quand Allah dit dans le Coran à propos de l'adultère, qu'est-ce qu'Allah dit à propos de l'adultère? Hala ya Muhammad, qu'est-ce qu'Allah dit? Ah ya Ibn al-Habib, wala taqrabu al-zina. Wala taqrabu al-zina, ne vous approchez pas. Allah n'a pas dit ne faites pas, n'accomplissez pas l'adultère. Les ulama disent que toutes les actions, tous les péchés, on va dire, qui gravitent autour du zina sont haram parce que ça amène vers le péché. On voit un petit peu le décalage entre le péché et l'ambiance autour du péché. Ça, c'est vraiment un exemple, c'est le contre-exemple, on va dire. D'accord ? Dans les bonnes actions, il y a aïnul ibada, l'action que tu accomplis, mais après, il y a l'état spirituel. Qu'est-ce que tu as de tes acquis ? Comment ton iman a été éduqué pour te présenter devant Allah ? Pas comment Moulissa Blanc enseigne au Massa Namaz, ça, tout le monde connaît Massa Namaz. Comment ton iman a été éduqué ? Comment tu as appris à connaître Allah ? Comment est-ce que tu as appris à savoir que Allah est Al-A'la ? Allah n'est-il pas Al-A'la, Luqman ? Le plus élevé ? Mais je le dis, Subhan Rabbi Al-A'la, oui ou non ? Qu'est-ce qui fait que mon Subhan Rabbi Al-A'la dans le sijda ne me permet strictement aucune connexion avec Allah ? Parce que je ne sais même pas que Allah est Al-A'la. Et ça veut dire quoi Al-A'la ? Au Coran, ça veut dire Rabbi Al-A'la. Apprends, étudie, connais ton Seigneur et ton Subhan Rabbi Al-A'la ne sera plus jamais le même. Combien de fois j'ai dit dans ma vie Subhan Rabbi l'autre Al-Azim. Savais-tu qu'Allah est Al-Azim? Et Al-Azim c'est quoi? Qui me traduit Al-Azim? Impossible de traduire Al-Azim. Il n'y a pas de traduction en français ou en d'autres langues. Al-Azim c'est traduit par le plus grand, le plus fort, le majestueux. Mais le mot Al-Azim, ça dépasse tout ce que... C'est vraiment ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'on ne... Waouh, c'est puissant. C'est Allah, Al-Azim, qui est le grand, le fort, le majestueux, celui qui détient tout, le créateur, c'est la puissance d'Allah. Est-ce que mon cœur a déjà frémi en génuflexion, en recours, en disant Subhan Rabbi Al-Azim? Non. En général, quand on fait recours, on a un peu mal au dos, donc on essaie de se relever rapidement, on fait trois fois, pas plus, d'accord? Il y a un petit souci. Masla, j'ai appris, moi. Qu'est-ce qu'il fallait dans la main? J'avais 20 sujets avant Masla, Madrasa, classe 4, classe 5. J'étais premier de la classe, d'accord? Le problème, c'est que je n'ai pas compris, je n'ai pas appris les noms d'Allah. Et du coup, mes actions ne décollent pas. Voilà, là, je vous ai donné un exemple concret entre l'accomplissement de l'action et la préparation du cœur, istiadat de l'qalb, pour que l'action soit accomplie de la bonne façon. Le verset, il y avait d'autres choses à dire, mais je ne sais même pas quel on a commencé, mais on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Et en commentaire, en conclusion à Sa'di, rahimahullah, parce qu'après la fin du verset, il parle des gens qui ont eu le livre avant. Faqasat qulubuhum. Ils se sont détournés de leur livre. Ils ont arrêté d'apprendre. Ils ont arrêté d'étudier leur livre, de s'imprégner de la lumière de leur livre révélé. Faqasat qulubuhum. Leur cœur est devenu dur. Il y a eu qaswatul qulub et ils se sont détournés du droit chemin. Saadi dit, si le mu'min, celui qui lit le Coran, ne veut pas avoir un cœur qui devient dur, et il parle même de, il y a une belle expression, et que vos yeux ne soient jamais secs, dans le sens où c'est un œil qui ne pleure jamais par amour d'Allah, qui ne pleure jamais par crainte d'Allah, qui ne pleure jamais quand on demande istighfar. Si tu ne veux pas arriver à cet état pitoyable de iman, ne tourne jamais le dos au Coran. Et ne tourne jamais le dos au Coran, ça veut dire pas la lecture. C'est ce qu'Allah reproche à certaines personnes. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le sens du Coran? Ou alors, am'ala qulubin aqfaluha. Ou alors, il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme un cadenas, quelque chose qui empêche le cœur d'aller un peu plus loin. Si le croyant tourne le dos au contenu du Coran à chaque ya ayyuhalladhina amanu, et que j'ai 45 ans, pas moi, mais encore plus jeune, moi, si j'ai 50 ans, 60 ans, et que je vous ai dit, ne prenez pas mal, hein, on ne porte aucun jugement, chacun regarde son amal, moi en premier. Si je ne me suis jamais posé la question depuis 50 ans, mais fait namaz, jamais compris la différence entre Al-Rahman, Al-Rahim et Maliki Yawmiddin. La différence entre Subhan Rabbi Al-A'la, Subhan Rabbi Al-Azim, c'est qu'il manque. Il manque des cases. C'est que tu as construit un cap-là qui est géant, mais il manque des bases. Et il suffit d'un coup de vent, d'une épreuve qui est un peu compliquée, pour que je perds le contrôle complètement. Et je n'arrive pas à trouver les qualités de foi pour m'en remettre à Allah totalement. Alors que d'apparence, j'étais vraiment le croyant qui était pas Aban, premier saf tout le temps. Il y a des choses qui sont apparentes, mais les réalités de foi, Allah, le prophète m'avait parlé avec les bédouins. Qalatil a'rabu amen. Ah, c'est où qui cause là? Parce que le masque finit de baisser sous le nez, remettre ça bien s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça que maintenant j'ai vu que c'est toi qui parlais. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bédouins, les bédouins, c'est déjà tes cousins. Toujours en train de dire des affaires en plus. Ils ont dit, nous avons iman. Ils ont dit, non, la foi n'est pas encore entrée dans le cœur. Ça veut dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et là, oui ou non, il y a tawhid. mais l'iman n'est pas rentré dans le cœur. Et je crains que nous aussi, nous sommes dans cette phase on va dire, superficielle de la foi, sans être péjoratif, mais qu'il manque les bases de notre iman. Et on va voir ce qu'il y a cette action qu'on doit développer, comment je peux arriver au niveau, je ne dis pas au niveau des sahaba, mais à la réalité de la foi, tout simplement. Arriver à la réalité de la foi pour trouver un vrai istiqama, une vraie fermeté dans ma vie. Donc mes chers frères, le premier dimanche, vous avez étudié un programme sur la salah. Le deuxième, sur la patience. Hier, sur la qualité des bonnes actions. Je pense que le programme de ce jour se rapproche beaucoup de celui de Cheikh Mohamed hier. L'objectif de notre intervention aujourd'hui, c'est quoi ? Comment créer un véritable lien du cœur avec Allah afin de pouvoir s'en remettre à lui totalement dans toutes les circonstances de la vie. Et qu'est-ce que j'appelle dans toutes les circonstances de la vie ? Quand tu accomplis une bonne action. Différence entre celui qui a les qualités de iman et celui qui n'en a pas, on a fait la démonstration. Quand tu es face à une tentation, un péché, là aussi, une personne peut avoir la pratique parfaite, mais face à une tentation, c'est trop fort la tentation. C'est qu'il n'y avait pas les bases de iman. La taqwa n'y était pas, tout simplement. La taqwa, c'est une prise de conscience, c'est une muraqabatullah en temps, subhanallah, en live, H24. Cette prise de conscience et le muraqabatullah fait partie des actions intérieures qu'on a pas, on a oublié de citer, des amal al-qulub. C'est une conviction qu'Allah me voit à chaque instant. Allah est sami'un, basir. Allah entend tout, Allah voit tout, Allah alimun bidat. Bidatul Soudour, Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Imaginez celui qui avance avec les noms d'Allah dans sa vie. Il a étudié, il les a intégrés. Et son iman, son cheminement spirituel, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a développé ? Il a développé la première branche de la foi. Amantu billahi. Vous l'avez tous lu dans Madrasa quand j'étais petit, non ? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ça se perd, hein, on ne récite plus les calimans de nos jours. Mais Amantu billahi, on l'a lu des milliers de fois dans notre jeunesse. Mais c'est ça qu'il faut développer. Là, je suis en train en même temps de vous donner les sept actions. On a déjà cité Amen to Billah. Il faut travailler la foi en Allah parce que la foi en Allah n'est pas encore entrée dans notre cœur. Les noms d'Allah, je ne les connais pas. Ce n'est pas juste connaître tel nom, ça veut dire quoi, mais étudier pour avoir une autre. On va dire pour connaître notre Seigneur, mieux le connaître pour mieux l'adorer. D'accord ? On a beaucoup parlé du Coran depuis tout à l'heure. Afala yatadabbaruna al-Quran, c'est la clé. C'est une des sept actions que ton cœur s'imprègne du contenu du Coran et pas juste la lecture superficielle. C'est pas d'être un qari avec les sept lectures, les neuf ou les dix. Il y a divergence dans le nombre de qiraat aussi. C'est pas ça. Ça c'est bien, tu peux le faire, c'est excellent. Ça permettra aux gens d'apprécier la lecture du Coran. Mais pour toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Tu n'as aucun lien avec la parole d'Allah. Dahilan, le contenu, c'est qu'il y a un grand manquement dans ta vie. Et ce discours-là ne s'adresse pas qu'aux ulama, au Coran. Non, ça s'adresse à tout le monde. Parce que vous lisez tous Alhamdou dans le namaz, oui ou non ? Je parle pour moi en premier, parce que ça je ne montre personne du doigt. Nous lisons tous Alhamdou dans le namaz, oui ou non ? Nous lisons tous Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, Al-Nasr, Al-Kawthar, c'est-à-dire les 10 sourates de base. Moi je râle de mon nia que ça, d'accord ? Et malheureusement, on lit tout ça dans Salah, oui ou non ? C'est-à-dire que donc le discours s'adresse à moi aussi. Je les connais par cœur, je les lis tout le temps. Mais pourquoi je n'étudie pas le sens des versets ? Après qu'on dit que oui, mais le namaz, il n'est pas concentré, il n'est pas comme, il ne gagne pas et tout et tout. Et après, on se dit que peut-être si je vais à Makkah, je vais trouver la concentration. Allez, Makkah, rentre dans la Kaaba. Rentre dans la Kaaba, fais tes deux rakats, tu n'auras pas de concentration non plus. Qu'Allah nous protège nous, et pardonne ce que je viens de dire. Ce n'est pas d'être dans un endroit béni qui nous permettra d'atteindre des hauts niveaux. C'est dedans qu'il y a quelque chose à reconstruire. Il n'y a rien à déconstruire. Hein. Tout est. Les bases qu'on a eues, c'est des bases saines. Mais c'est trop superficiel. On a besoin de. Le iman n'est pas encore entré. On a juste le niveau de aslamna. Donc, je vous le dis, le titre est prétentieux. Mais c'est moi qui ai fait le titre d'ailleurs. Hein. C'est pas. On a décidé d'un titre qui est. Finalement prétentieux, sans remettre à Allah. Parce que sans remettre à Allah, placer sa confiance en lui, ce sont des notions qui sont faciles à dire. C'est facile à prêcher, ça. Facile de vous faire un discours. Ayez confiance en Allah, mettez votre confiance en lui et tout, c'est Allah qui fait tout. C'est facile à dire. Mais pas aussi évident à mettre en pratique, en application. Et je vous rassure, tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour atteindre le haut niveau du iman, ça. Et avoir le lien entre Amalul Quloub et les actions externes, ça c'est quand on atteint le Ihsan, les plus hauts degrés de foi. Mais c'est notre objectif. Ça ne veut pas dire que nous sommes des mauvais musulmans, je me reprends sur tout ce que j'ai dit. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint encore le bon niveau. Au cas où certains pensent qu'on est nul, nous on n'est pas nul. On est bien, mashallah, on prie, on fait tout ça, c'est bien. Mais je veux dire qu'on n'a pas atteint le haut niveau. Et on doit atteindre le haut niveau, oui ou non? C'est pas je veux dire, moi je me contente d'un petit iman tranquille, une petite place dans Jannah, d'un petit coin là, sous un tol, tranquille pour moi, du moins que ça passe dans. Non! Les croyants disent, waja'ilna lil muttaqina imam. On veut être les a'imma, parmi les pieux. On veut atteindre les hauts degrés. On veut augmenter notre. Je veux que quand l'ange de la mort vient reprendre mon âme, il vient me dire Allahu yuqri'uka salam. Allah t'adresse ses salams. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Je veux que l'ange de la mort vient reprendre mon âme, il m'annonce qu'Allah est satisfait de moi. Retourne vers ton Seigneur qui est satisfait. C'est ça que je veux. Mais pour atteindre ce summum de la façon de mourir et d'être ressuscité et les plus hauts degrés du Jannah, il faut que mon iman monte de niveau. Là, ce que nous avons, on a des bases. Mais il manque certaines réalités qui vont. L'avantage que nous avons, c'est que les a'mal sont là. Mettez les bonnes bases, il y aura, mashallah, un effet extraordinaire. On va grimper, on va être propulsé dans la pratique spirituelle, inshallah. Donc, quelles sont les actions que nous devons faire en amont de tous ces efforts de Ramadan et de la dernière décade pour ressentir la dévotion de nos bonnes actions et de pouvoir s'en remettre à Allah à chaque instant? Qu'est-ce que je dois faire pour que, quand je lève mes mains et que je fais doua, il y a des larmes qui coulent? Quand je demande istighfar, je pense vraiment mes péchés, mon cœur tremble et je me mets à pleurer. Parfois, ça nous fait rêver de savoir qu'il y a des gens qui ont un tel niveau de piété, qu'ils se connectent avec Allah, mais d'une façon rapide et limpide. C'est qu'il y a des bases de iman. Que dois-je faire pour ça? Alors, cette action. On a combien de temps, Baï Farouk? On a combien de temps? Pas de réponse, j'ai pas entendu. Donc, on a 7 a'mal à développer. 15 minutes, c'est bon? 7 a'mal à développer. Premièrement, et je ne veux rien dire de spécial, hein, c'est des grands classiques, mais c'est des réalités. Abandonner les péchés. Et ça, c'est souvent un sujet voilà, qu'on n'aime pas entendre. Quand un Molissa veut dire à quelqu'un, bah, arrête, nous connaît que bon, on travaille avec la banque, c'est pas une bonne chose. Mais quoi, garde où ça? Pour le problème, c'est l'argent, pour l'argent. Ça, c'est une nouvelle génération. Hein. Les anciennes respectaient quand même. Hein. Mais plus ça va, plus vous allez voir que ça se perd. D'accord? On adopte un mode de vie nafsi, nafsi. On est replié sur soi-même. Je cherche mon intérêt et je trouve que personne n'a une quelconque légitimité à me faire une remarque spirituelle. C'est-à-dire que dans les générations qui sont en train d'évoluer, on est en train de tuer la da'wa. La da'wa est en train de disparaître. Parce que on est libre de nos choix et on est en train d'aller dans tous ces délires de liberté individuelle et tout. Ce qui fait qu'on estime que personne, ni Alim, ni personne, ni même mon père, n'est en droit de dire Béta, fais pas comme ça, fais autre namaz. Pas bon, namaz fajr ou rat et tout. Lui, vous la faites où? Ben, alhamdulillah, moi, je ne fais pas, c'est mon vie. C'est cru de dire ça comme ça. Mais ça se passe comme ça. Et ça va loin, Allah musta'an. Avec nos jeunes qui sont connectés avec tout ce qu'il ne faut pas, d'accord, avec des réseaux sociaux où ils sont en train de perdre des qualités d'iman, qu'Allah Rabbul Izzah les ramène vers le droit chemin, ça doit être vraiment notre priorité. Ainsi donc, abandonner les péchés, on n'aime pas en général parler de ça, mais c'est un sujet sensible, on se dit que c'est ma vie, chacun fait ses choix. Mais en fait, quand on parle d'abandonner les péchés, là, déjà, il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est pas par tradition. C'est pas une question culturelle. D'accord, quand je dis je ne mange pas de porc, pourquoi vous ne mangez pas de porc? Parce que les musulmans ne mangent pas de porc. Parce que la microbe dedans, après une femme, elle dit mais si il y a un traitement chimique et on enlève tous les microbes, c'est halal? Bien, pose pas question compliquée, magadj, là. N'en fait carrément plus là, fatigue pas mon tête. En fond, on ne sait pas. Quand on s'éloigne de quelque chose, c'est souvent culturel. On a appris et donc c'est de la culture de ne pas manger, de ne pas faire telle chose. Non. Ou alors quand on abandonne un péché, souvent c'est par rapport à la surveillance des gens. Surtout dans une ville comme ça, c'est un lieu compliqué, si tu habites tout là, tous les arabes partout. Ça n'y paraît. Tous ceux qui habitent dans les quartiers ou autour de masjid, ils ne peuvent pas marcher avec un tantine dans la rue, il n'est pas possible. On a la famille Kazi, il est là, la famille Intel est là, la famille tout, ils regardent comme Radar Tourelle. C'est pas méchant. C'est-à-dire, on peut pas, quand on est entouré de musulmans, de Aprawala, d'accord, on ne peut pas se permettre de. Mais quand je dis abandonner les péchés, c'est pas par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que ce même jeune homme qui faisait attention parce que Moulissab est là, Moulissab est là. Non, il n'est pas là. Ça fait peur quand même quand il a un gros yeux, là. D'accord? En fait, avec masque, moi je veux avec masque, je veux être sérieux. D'accord? Tout le monde avec masque, Dieu, il est sérieux. Mais moi, lui, ça doit être très terrible. Bien. Mais avec un cœur en or, subhanallah. Un cœur en or. Allah lui accorde longue vie de temps, il donne sa protection. Bel héros. Et donc, quand par moi, hein, on disait donc, oui, le même jeune homme qui n'oserait pas marcher avec sa copine la rue Saint-Louis parce que le Moulissable est là, ainsi de suite, théoriquement, quand il va faire ses études à Paris, il va à la Sorbonne ou il va, peu importe, dans n'importe quel que soit l'endroit, théoriquement, s'il a la taqwa, il reste le droit chemin. Mais s'il abandonnait les péchés par rapport au regard des autres, khalas, catastrophe. Et qu'Allah protège le jeune. Donc, ikhwani fillah, abandonner les péchés, j'aime pas non plus la dictature religieuse. Des gens qui fouillent dans la vie des gens, oui, on fait ci, on fait ça. Là, c'est vraiment exagéré. Donc, allez, on va pas ouvrir trop de parenthèses, mais c'est vrai que c'est un sujet sensible. Quand on parle de nos péchés, c'est comme si on parle de nos défauts. Personne n'a envie d'entendre les défauts, d'accord? Par exemple, vous dites, oh, là, bien grossi, hein, ou, dis, oh. C'est pas de problème ça c'est mon affaire, d'accord, mon analyse de sang, mon cholestérol, c'est pas de cholestérol. On n'aime pas qu'on parle de nos défauts physiques et ainsi de suite, d'accord. Et en entrant, j'ai vu, enfin bref quoi, bref, on ne passe pas de parenthèse. Et pareil, quand on parle des péchés, ça dérange. Mais il n'y a pas de dictature, on n'est pas comme des ayatollahs qui suivent et qui disent « Waouh, fais ci, on fait ça ». Non. Il y a juste une prise de conscience individuelle. Une prise de conscience, je vous donne un exemple bête, hein. Pas un exemple bête, mais très basique. Il y a 6 ans, j'avais reçu une personne pour le Hajj, pour faire les visas saoudiens, on l'a mis dans l'hôtel. Et cette fois-ci, j'avais oublié de dire aux dames qui font les chambres d'enlever les bouteilles d'alcool du frigidaire. On le fait tout le temps, ça veut dire j'ai oublié. D'accord? Et j'ai dit, si je suis désolé, on a oublié de le faire. Elle a dit, mais pourquoi tu es aussi gêné? J'ai dit, non, mais on sait que. Elle a dit que, Ibrahim, il y a une différence entre al-man'u ou al-imtina'. Et je me souviendrai toujours, Inch'Allah, cette parole. C'est pas un alim, c'est un diplomate, donc c'est pas un savant. Il dit que entre le fait de dire que tu es dans un pays où la chose est interdite, donc tu ne le fais pas, et le fait d'être persuadé dans ton cœur que tu ne dois pas le faire, il y a un décalage, et c'est le deuxième que je dois développer. Par exemple, quand on parle de l'Arabie Saoudite, où l'alcool ne se vend pas, donc les gens ne boivent pas. Est-ce qu'ils ne boivent pas parce que ça ne se trouve pas et que le pays l'interdise? Mais s'ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à New York, ainsi de suite. Si après ils se lâchent, quel que soit le pays, quel que soit le péché, on comprend, ça veut dire qu'il y a un problème de la foi. Je ne me suis pas persuadé moi-même que je ne dois pas le faire par rapport au regard d'Allah sur moi. Pas par rapport à ce que les gens vont dire ou ainsi de suite. On a compris le décalage. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités dans la pratique de la religion. Il faut une certaine finesse d'esprit et une réflexion pour arriver à comprendre tout ça. Ainsi donc, il y a 3 choses que je dois retenir pour l'abandon des péchés. Et avec ça, n'importe quelle personne douée d'intelligence, il doit se persuader lui-même que j'ai pas besoin de grands discours. J'ai pas besoin d'un alim qui me suit à la lettre ou que mon père il demande à quelqu'un en France de regarder mon garçon. Il n'y a pas besoin de tout ça. Premièrement, je dois réaliser que j'ai des anges qui sont là, qui enregistrent mes péchés. Et que, ça on connaît, kiraman kaatibina ya'lamuna ma tafa'alun. Ça, tout le monde le sait, on est après la madrasa. Je dois également être conscient que Allah a créé des anges qui se relaient matin et soir. Yata'aqabuna fikum malaika bil-layli wan-nahar. Les anges du matin inscrivent tes péchés du matin, tes actions, pardon, du matin jusqu'au soir. Et les anges du soir, et ainsi de suite. Ce sont des relais. Est-ce qu'Allah a besoin d'eux? On n'en a besoin de personne. Mais c'est sunnatullah. Allah a organisé la création comme ça. Pour que nous soyons conscients qu'il y a un rapport qui est fait journalier, matin et soir. Donc, Akhifillah, juste réalise que ce que tu fais, c'est écrit. Et sois intelligent. Et essaie de décider toi-même qu'est-ce que tu veux retrouver dans ton livret de compte. Il n'y a personne pour te surveiller. C'est toi qui décides de ton sort. Deuxièmement, la conviction que dans le Akhirah, je vais voir ses actions. Mais il y a un verset, Bilal l'a trouvé, et c'est encore plus percutant, et que Allah va voir les actions. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va également voir les actions. Et l'ensemble de la Ummah. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Et dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre. وَرَسُولُهُ. De même que son messager. وَالْمُؤْمِنُونَ. Et les croyants. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Le tafsir est long. On a Ibn Kathir, on a Sa'di. Le résumé c'est quoi? C'est wa'id, mise en garde. Attention, ô croyants, quand tu prends tes décisions, quand tu fais tes choix, fais les bons choix. Parce que ce péché, si tu l'amènes de te livrer de compte et qu'il t'est présenté le jour de Qiyama, ce sera ihana, ce sera une humiliation. Car Allah verra ton péché, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle déception pour lui qu'un membre de sa umma a commis tel et tel péché, et l'ensemble de la umma verra les péchés. Donc à moi de réfléchir quelles actions je veux voir exposées le jour du Qiyam. Et troisième raison pour laquelle chacun d'entre nous doit faire un effort pour abandonner nos péchés du quotidien, c'est que je dois prendre conscience que lorsqu'un croyant et dans une situation de fitna, je suis exposé à un péché, mais je ferme la porte. Vous savez, le taqdir du croyant, c'est ajib, hein. Allah t'ouvre des portes tous les jours. Tous les jours. Allah envoie quelqu'un te demander de l'aide. Est-ce que peut pas dépanner à moi, hein? Est-ce que peut aider à moi et tout, tout. Ne le repousse pas. Je dis ça à un programme la semaine dernière avec des jeunes. Ils sont plus jeunes d'ailleurs, il y en a qui sont là, ils sont tous mariés avec des enfants, mashallah. J'ai un ami restaurateur. Je dis qu'au centre-ville, il y a beaucoup de gens qui viennent au restaurant, ils demandent un petit baguette de manger et tout et tout. À un moment donné, Shaitan va te dire que, il casse pas son tête, lui. On dirait ici, c'est, comment on appelle ça? Resto plus, m'a dit le nom de resto, excusez-moi. C'est resto du cœur. Et Kaki, s'il vient manger gratuit, c'est la soupe populaire. Et à un moment donné, tu vas dire que non, aujourd'hui non. Alors, coup de bas, il est rempli de manger. Et au coup, il ne sait pas vendre. D'accord? 18h, couvre-feu, il ne sait pas vendre. Tout ça fait tout ça. Et tu dis non, parce que voilà, il vient, il demande tout le temps gratuit, c'est pas possible. Comprends que quand tu le donnes, hein, c'est pas lui que tu donnes. Tu es en train de donner pour Allah. Alors que ce soit Jean-Michel, que ce soit Guy Noël, que ce soit. Guy Noël existe vraiment, hein, d'accord? Que ce soit. Quelle que soit la personne qui vient quémander et demander, ne regarde pas son visage. Allah t'a ouvert une porte de monde. Donne. Parce que tu sais, le jour de Qiyama, ce que tu vas retrouver dans ton mizan hasanat, là, c'est extraordinaire. Pour des petites actions. Et la pire des choses, c'est qu'Allah t'ouvre une porte et tu la refermes. Allah t'ouvre une porte, je veux dire, de bonnes actions et tu la refermes toi-même. Dis non, mais fais pas ça. Allah nous protège. C'est quand tu te réveilles dans la nuit, en dehors de Ramadan, hein, les 4h30, tu regardes l'heure, tu regardes ton Ran Salah et tu vois qu'il y a encore 30 minutes pour faire tahajjud. On est le 3 Shawwal, d'accord? Et tu réfléchis, tu dis que non, ma fille fait 30 jours à Ramzan, tahajjud, m'a fait le lendemain de Eid, m'a fait le deuxième jour. Aujourd'hui dimanche, non, prends un petit repos. Allah t'a ouvert une porte. Et tu te les et tu sais, quand tu refermes une porte, là, il est possible que cette porte ne s'ouvre plus. Cette occasion ne se présente plus. Donc, ikhwani fillah, akhwati fillah, ne fermons jamais une porte qu'Allah nous ouvre, une porte de khayrat. Et des fois, il y a des portes de fitna qui s'ouvrent à nous, des portes de péché, de tentation. Il y a un péché qui nous est accessible. Et là, le croyant qui décide de fermer cette porte, ça, c'est une action qui est extraordinaire. C'est par exemple ce jeune homme, ce jeune chef d'entreprise. Je prends un exemple, hein, ce qui me revient en tête, qui a un collègue de bureau, une stagiaire, qui lui fait des avances. Et vraiment, elle a toutes les qualités, physiquement et ainsi de suite. Et que, imagine, je pousse un peu, hein, et que tu es en déplacement professionnel, on va loin là, tu es en déplacement professionnel, et que ta femme ne te voit pas, bien sûr, et personne ne te voit, tu es dans un hôtel en Thaïlande, à Bangkok, ou je ne sais pas où, et que franchement, le zina, c'est. Il n'y a aucun problème, tu peux te faire plaisir et il n'y aura aucune conséquence ni de ta vie familiale, ni dans l'image que tu as de la société, ni de rien du tout. Même si tu as Hafez Quran, personne ne le saura. Ils te laisseront faire ta vie quand même, parce que pas vu, pas pris. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Et que la personne se dit que non, iman est dans mon cœur, Allah me voit, Allah est sami'un basirun alimun bidhati sudur, je fais muraqabatullah, j'ai al-haya min Allah, j'ai hubbullah, j'ai khashiyatullah, j'ai ihtisabul ajj, j'ai toutes ces qualités-là qui animent mon iman. Ça c'est le volcan qu'il y a dans mon cœur, c'est toute la lumière, le nour qu'il y a de mon iman qui brille de mille feux et qui me permet de dire non. Et je referme cette porte. Allahu Akbar. Man taraka shay'an lillahi Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux. Dans une version de Imam Ahmad, inna kalan tad'a shay'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allah bima huwa khayrun laka minhu. Quand un croyant abandonne quelque chose, comprenez qu'il lui était accessible pour Allah, Allah est tellement satisfait de lui qu'il t'accorde quelque chose. Qu'est-ce qu'Allah t'accorde? Et là on creuse, on lit, on arrive dans un commentaire qui dit qu'Allah t'accorde nourun. Allah t'accorde une lumière de ton cœur, tajidu biha halawat al-iman, qui te permet de trouver la douceur de la foi. Mes chers frères, vous savez c'est quoi la douceur de la foi? C'est quand tu fais namaz là, et quand tu es dans le sujda, tu veux plus te rasseoir, tellement tu es heureux et tu trouves une jouissance spirituelle qui était la salat des sahabes. On a lu des histoires des compagnons, il y a eu un mur qui s'est écoulé, il n'a même pas remarqué, ainsi de suite. C'est pas des légendes urbaines, hein? Et quand on écoute ça, on dit que ben, c'était un autre niveau. Pourquoi un autre niveau? C'était un homme comme vous et moi. Et le mur qui s'est effondré, c'est un mur comme, pas comme vous et moi, mais un mur comme un mur. D'accord? C'est des situations réelles de la vie. Mais c'est que le iman, le degré d'implication de khushu', de tawadu' lillah, de ce qu'on appelle de tazallul, qui représente l'ibadah, atteint le summum chez eux. Et donc, ce halawatul iman, c'est ça. Et quand quelqu'un abandonne un péché pour Allah, Allah met dans ton cœur une lumière. C'est comme si qu'il y a un petit crédit lumière. Et ce crédit lumière-là te permettra de te concentrer dans la salah, de te concentrer quand tu fais du'a. C'est magnifique ça, vous arrivez devant la Kaaba, vous faites tellement du'a, 30 minutes. Tout le groupe il dit, allons-y, il a besoin de commencer tawaf là et tout. Il décolle pas. Il pleut, il demande tawbah. Tu avais une liste de du'a, de mon avis, fais telle doigt pour moi, et toi-même, tu avais. Quand tu arrives devant, c'est ton cœur qui s'épanouit. Ton cœur s'ouvre devant ton Seigneur. Est-ce que parmi vous, juste levez le doigt, celui qui l'a déjà fait, hein, qui a déjà collé sa poitrine contre Multazam? Juste. Non. Non. Ya ilaha illallah. Mais faites-le avant de mourir. Faites le vaccin avant. Faites-le avant de mourir. Coller sa poitrine contre Multazam. Multazam, c'est entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Ça fait ça, hein? Après, c'est vrai, si on a deux tubes devant, il est compliqué. Il fait un panini avec vous, mais. Coller sa poitrine, c'est une sunna, ça. C'est pas une bida, comme une bidati. Touche la toile Kaaba, c'est bida. Bida, d'accord? Mais c'est ce hadith, celui qui. Coller sa poitrine contre le Multazam. Faut les forts, faut les costauds. Nasib dar, comme il dit, Allah yuta chemin. Et quand tu le fais, Allahu Akbar. Extraordinaire. C'est ce qu'on ressent, c'est puissant. Ça, c'est une petite idée de halawatul iman, de la douceur de la foi. Et tu peux le ressentir deux fois dans ta vie, trois fois dans ta vie, mais quand tu le ressens, c'est waouh. Tu dis que Allahu Akbar, la foi, elle te permet d'arriver à des niveaux extraordinaires. Les sahaba, pour eux, c'était le quotidien. Et si je veux monter un peu de niveau pour ressentir halawatul iman, tazkiyatun nafs, corrige ton nafs, baisse ton regard. Ce n'est pas des actions extraordinaires abandonnées, hein, mais c'est chaque fois que tu vois une femme ou qu'une femme voit un homme, c'est dans les deux sens, hein, de le genre, madame n'a plus masti aussi, baisse ton regard, contrôle ton regard. Quand tu as envie de dire une bêtise, ne le dis pas. Quand il y a le dernier Anakamura, il y a le dernier Wajden ou je ne sais pas quoi, n'écoute pas. Ne télécharge pas le fichier audio, je parle pour les jeunes. Ne fais pas ce que les jeunes font, ne fais pas ce que les autres font, et ainsi de suite. Man taraka shay'an lillah. Tu délaisses, tu abandonnes pour Allah, Allah t'accorde une lumière. Et cette notion d'abandonner un péché pour Allah propulsera un jeune sous l'ombre de son trône, parce que le jour de Qiyama, parmi ceux qui seront sous l'ombre de son trône, vous savez, c'est un homme qui a eu des avances d'une femme d'une grande beauté et qui a dit Inni akhafullah, je crains Allah, donc je ne fais pas l'adultère. C'est celui qui est dans l'hôtel à Bangkok, là, c'est lui aussi, ça. C'est tous ceux qui refusent le zina par amour et par crainte d'Allah, sans aucune autre conséquence ni risque. Allah est tellement satisfait qu'Allah leur accorde une place selon son. Donc, première chose, je réalise, je comprends que jamais je ne pourrai me rapprocher d'Allah correctement avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que mon cœur ne se connectera jamais avec mon Seigneur s'il est rempli de points noirs. Les points noirs, c'est chaque péché égale un point noir. Si mon cœur est rempli d'obscurité, il ne peut pas être alladine en fi salatim khashi'un, trouver la dévotion dans la salat, la concentration, l'amour d'Allah, les larmes ne couleront pas parce qu'il y a trop de péchés. Donc, istighfar, bien sûr, mais pas que. Istighfar, mais pas que. Je pourrais faire le titre d'un film, ça. Istighfar, mais pas que. Istighfar de l'ayatul qadr, oui, mais niyat sincère, al-azm, de ne plus recommencer les mêmes péchés et faire les efforts pour s'éloigner des péchés, premièrement. C'est du basique, ça, hein, mais il faut le faire avec cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on abandonne un péché pas parce que c'est pas bon. On abandonne un péché par amour pour Allah, par crainte d'Allah. Il y a al-haya'u min Allah. Avoir honte de désobéir, avoir honte que mon Seigneur me voit dans cette situation de désobéissance. Avoir honte que ce soir, dimanche soir, Allah voit, et Allah le sait déjà dans ma journée, que je fais tel péché. Et quand je l'abandonne pour Allah, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, dans mon iman. Deuxième action, on l'a déjà développé, donc on ne va pas aller loin là-dessus. Al-Iman Billah, la première branche de la foi, Amantu Billahi, développer la foi en Allah, et ça passe obligatoirement par connaître les noms et les attributs d'Allah. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est une constatation. De toute façon, il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas de système parfait, mais dans notre parcours, nous tous, dans différentes madrasas, même si on a appris les noms d'Allah par cœur, mais c'est quelque chose qui manque. Et je pense que dans toutes les masajid, il devrait y avoir des assemblées où on enseigne aux gens, connaissez votre Seigneur, apprenez qu'Allah est Rahman, qu'Allah est Rahim, qu'Allah est Tawwab, qu'Allah est Afou, qu'Allah est Karim, qu'Allah est Ghani, et ainsi de suite, afin que quand tu te présentes devant lui, tu sais, tu frappes la porte de qui ton Créateur est, comment il est grand, comment il est généreux, comment il est miséricordieux, mais également, quand tu es dans une situation de péché, sache que ton Seigneur peut punir sévèrement. Ça aussi, c'est une des qualités d'Allah, Azza wa Jalla Shadidul Iqab. Ainsi donc, je ne vais pas développer les noms que j'avais prévus, mais Al-Azim, le majestueux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'on connaît, Al-Latif, le bienveillant. Et le bienveillant, ça va t'aider dans les épreuves de la vie. Al-Latif, c'est le Seigneur qui connaît chaque croyant, ton parcours, et qui te prédestine ce qui te sera utile. Même l'épreuve, même la difficulté que tu vas connaître dans quelques jours, Allah te l'a prédestiné pour te permettre de trouver le pardon pour une étape de ta vie, un péché grave que tu as accompli et pour lequel tu n'arrives pas à demander pardon, Allah va l'effacer par la difficulté. C'est Allahu Latifun bi'ibadi, la bienveillante de notre Seigneur. Al-Hakim, Allah qui est sage, Al-Qawi, Al-Hafidh, Al-Malik, Al-Sami'u, Al-Basir, il faut travailler les noms d'Allah. Je le répète, si tu connais ton Seigneur, quand tu pries, c'est différent. Quand tu fais dua, c'est différent. Quand tu demandes pardon, c'est différent. Et tu trouves la concentration dans la salah. Voilà. Il y avait certains versets qu'on voulait développer, mais ce n'est pas possible. Quand on arrive à un degré de iman et qu'on connaît Allah Azza wa Jalla par ses noms et ses attributs, il y a des versets qui s'ouvrent à nous, qu'on n'imaginait pas. Mais quand cette réalité, on ne parle pas d'une connaissance invisible, ilm ladun, non, on n'est pas dans ces délires-là, hein. On parle des choses qui existent dans le Coran et la Sunna. Les noms d'Allah, c'est bien expliqué. D'accord ? Mais quand tu arrives à ce degré de connaissance religieuse, il y a des versets qui te sont accessibles. Je donnerai deux exemples. Rabbul Mashriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur. C'est que quand tu arrives à un haut degré de foi, tu arrives à chacun moment de ta vie à t'en remettre totalement à Allah, arriver à un degré de tawakkul qui est complet. Également le verset innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim, certes ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur. Crois, je sais c'est quoi. Faire de bonnes œuvres, je sais c'est quoi. Mais ça veut dire quoi s'humilier devant le Seigneur? C'est des petites notions comme ça. Ça c'est pas, ça fait partie des a'mal al-qulub, des actions du cœur. Celui qui arrive à ce niveau en connaissant Allah et qui arrive à développer ça, ben Allah lui promet le Jannah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Il y avait un troisième verset, mais on va s'arrêter à deux versets. Étudier les noms d'Allah, connaître Allah, c'est la deuxième condition pour que des actions aient vraiment une présence spirituelle de ton cœur et produisent quelque chose, une lumière. Donc, abandon de péché, iman billah correctement. Troisièmement, connaître le livre d'Allah. Là aussi, on ne va pas développer par rapport au temps, mais en fait, il y avait quelques versets clés que je voulais qu'on voit ensemble, mais on en a cité déjà en introduction, donc c'est bon. À mon niveau, je n'ai pas besoin de devenir un nouveau Ibn Kathir. On a demandé ça à personne. On n'a pas besoin de devenir mufassir, commentateur du Coran. Non. Chaque musulman doit être capable de comprendre Al-Fatiha. Pas la traduction, hein, d'étudier en profondeur le tafsir d'Al-Fatiha et des 10 sourates que nous lisons de le namaz. Et si je lis Ayatul Kursi chaque fois, étudier le tafsir d'Ayatul Kursi, c'est tout simplement magique et magnifique, afin que je crée un lien avec la parole d'Allah. Je ne peux pas me permettre de passer sur ce dunya, de mourir à 84 ans, sans que je n'ai jamais pu créer un lien intérieur avec le Coran. Ça, ce n'est pas possible. Là, je rentre dans « Afala et tadabbaruna al-Qur'an » ne médite-t-il pas sur le sens du Coran, et je suis coupable et responsable. Donc, un effort avec nos savants. Et si vous voulez des livres de tafsir, c'est les mêmes que je dis, parce que malheureusement, il n'y a que deux qui ont été traduits. Tafsir Ibn Kathir, la base. La base. C'est traduit en français. Très bonne traduction maintenant, ça a été révisé, mais très compliqué à comprendre. Avec beaucoup de récits israéliens et tout, un peu compliqué. D'accord ? Le pur bonheur, c'est le tafsir de As-Sa'di, Taysir al-Karim Rahman, qui est traduit, qui est concis. C'est un peu l'équivalent de tafsir Jalalain. C'est-à-dire des tafsirs très simples, ou tafsir Muyassar. C'est traduit en français, très bonne traduction, je vous assure. On a donné ce conseil à quelques jeunes l'année dernière en confinement. J'ai un ami, il écoute, expert comptable, commissaire aux comptes, il ne travaillait pas. Et je ne sais pas combien il a parcouru, mais il s'est mis à lire Tafsir al-Sa'di et il n'arrêtait pas. Et il m'a dit que c'était, mashallah, c'est devenu un rituel. C'est-à-dire que crée un lien avec les versets du Coran et tu verras comment ta vie va changer, comment ta salat va changer. Ton qul huwallahu ahad dans la salat, ça va être un autre niveau. Et quand je dis ça va être un autre niveau, ça veut dire que ton cœur sera présent. Ton cœur sera enfin convaincu. Ce cœur qui fuyait, tu l'as donné la lumière du Coran et il est avec toi et tu trouveras le résultat dans ta salat. Ça fait trois. On a presque terminé. Quatrièmement, faire des sacrifices pour notre dîn. Alors là, il y avait un magnifique tafsir qu'on a trouvé. Ça me fait un petit peu mal au cœur de ne pas vous l'exposer, mais khayran, inshallah, que malgré qu'on ne le dise pas, Allah met la lumière de notre cœur. C'est lors de la bataille de Al-Khandaq, la bataille des fossés. Et je vais juste vous lire Al-Shahid. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Hadith est stipulé que lorsque les différentes tribus arabes, ils avaient encerclé Médina. On connaît l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Leur but était de tuer le prophète alayhi salat wa salam et l'ensemble des sahaba, leurs épouses, leurs enfants, pour qu'il n'y ait plus d'islam à Médina. C'était leur but. L'islamophobie, c'est pas un mouvement récent, ça a toujours existé. Et les sahaba avaient, beaucoup de sahaba avaient peur. Il y avait la peur qui s'est installée dans le cœur parce que c'était une situation insoutenable. Et il y a un récit où, longtemps après, un jeune homme, un tabi'in, a parlé avec Abu Hurayra, le nom de Sahaba, je ne le retrouve plus. Il avait dit que, sache que si, avec Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit, oh Hudhayfa, tu as vu le prophète, comment c'était? Il a expliqué, il dit, oh Hudhayfa, oh mon oncle, si moi, j'étais présent, le prophète, je ne l'aurais même pas laissé marcher, moi. On l'aurait porté sur nos dos. Et là, il a dit, arrête-toi. Dans le sens, calme-toi. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu. Il dit, lors de la nuit, une des nuits de Laylatul Ahzab, le prophète, il faisait froid. On n'avait rien à manger. On avait peur. Les ennemis étaient partout. Le prophète a dit, qui est volontaire, il se lève et il va voir qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Sahaba n'a bougé. Le prophète Sam a fait salat et demandé l'aide d'Allah. Il revient et dit, oh mes compagnons, qui parmi vous est prêt à aller voir ce que l'ennemi fait? Les sahaba étaient fatigués. Il dit que qu'est-ce qui nous a empêché de nous lever? La faim, rien à manger. Le froid, vous connaissez le froid de Médine? Le froid, la peur. On ne s'est pas levé. Le prophète Sam est retourné prier. Regardez Nabiullah, il demande de l'aide à Allah trois fois. Le prophète Samad ibn Hudhayfa va voir. Et en commentaire, il dit que le verset qu'on a lu, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Lorsque, à cet instant, allez, on va aller directement vers le tafsir de Ibn Kathir, il dit وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Cet épisode-là, c'était un déclic pour beaucoup de sahaba. Lorsqu'ils ont vu l'aide d'Allah, ils ont fait confiance à Allah, il y a eu une yaqin qui est entrée dans leur cœur. Alors, c'est un long développement, normalement, je l'ai fait en 20 secondes. Savoir qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu fais un grand sacrifice pour ton dîn, Allah te permet de passer un cap spirituellement, de monter au niveau de iman. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on revient à un niveau beaucoup plus accessible à nous. C'est lorsqu'on te dit, donne pour la masjid, l'aumône. Donne pour la cause d'Allah. Et que tu sais pertinemment que quand tu tiens billet de 50, c'est de l'argent en moins. Mais dis que non, tawakkalna ala Allah. Allah m'a promis la baraka quand je donne, je le fais pour lui. Dis que tu t'avances, tu marches sur un fil qui est invisible. Tu es en train de donner pour Allah, pour la masjid, pour toutes les bonnes causes. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les savants disent que quand tu fais ce sacrifice pour Allah, les yeux fermés, et tu as confiance en ce qu'il t'a promis, alors que devant toi, tu ne vois rien, tu vois la diminution de tes biens. Mais tu ne vois rien d'autre, mais tu sais qu'Allah va te donner, ne va pas te laisser parce qu'il t'a promis. Tu fais un bond extraordinaire dans ton iman. Donc, fais des sacrifices pour le dîn, ça permet de trouver ce résultat de iman, mujahada pour la religion. Cinquièmement, s'inspirer du modèle des prophètes. Là, je vous invite à lire l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salatu wassalam. Les gens les plus éprouvés parmi les prophètes, c'était ces deux-là. An-Nabi alayhi salam, premier, et deuxième, Ibrahim alayhi salam. Quand Allah demande à Ibrahim de laisser son épouse dans le désert avec son bébé, biwadin ghayr dhi zar'in 'inda baytika al-muharram, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam pose une seule question. Allahu amaraka bihan. Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser là? Ibrahim alayhi salam dit oui. Khalas, ils acceptent. C'est-à-dire que j'ai les textes, j'essaie de comprendre, mais j'ai besoin du modèle. Le modèle, c'est les Anbiya qui avaient atteint, eux, le summum de la confiance en Allah, sans remettre à Allah totalement, c'était eux les modèles. Donc, lire l'histoire des prophètes, il n'y a pas d'âge pour apprendre la religion. Ce n'est pas parce que j'ai 45 ans que c'est bon, ça c'était le niveau des élèves madrassa. Continuer à apprendre et à élargir notre connaissance religieuse, tout ça, ça va renforcer notre iman et donc donner de la force à nos bonnes œuvres. Avant dernier point, essayer de réunir toutes ces qualités qu'on a dit là, croire en Allah, se débarrasser des péchés, un lien puissant et réel avec le Coran, s'inspirer du modèle prophétique et là, accomplir certaines bonnes actions en ramenant toutes ces qualités, fais le tahajjud. Et tu vas voir qu'est-ce que ce tahajjud va t'apporter. À Makkah, quand le prophète a des situations difficiles, Allah lui demande Ya ayyuhal muzammil qum illa illa qalila. On va voir comment est-ce que le cœur trouve refuge dans la prière de la nuit. Lecture du Coran avec compréhension. Jeûner le lundi, le jeudi, l'esprit de sacrifice pour Allah. Tout ça, ça va nous apporter, inshallah, ziyadatul iman, un istighfar avec sentiment de culpabilité, conviction qu'Allah t'a entendu, t'a vu, que l'action a été présentée. Mais si je lui demande pardon, il va effacer cette action. Mais toutes ces prises de conscience ne peuvent prendre place dans mon cœur qu'à partir du moment où j'ai passé ces différentes étapes. Connaissance d'Allah, délester les péchés, connaître le livre d'Allah, et c'est là que j'avance réellement. Et enfin, on termine, ouvrir son cœur régulièrement à Allah dans les doigts. Il y a différentes catégories de personnes pour les doigts. Je vous promets, c'est la conclusion. Il y en a ceux qui ne font pas doigts, ils ne savent pas faire doigts. Et vous savez pourquoi ils ne savent pas faire doigts? Parce qu'on ne les apprend plus à faire doigts. Si Moulissab, il fait doigts, il fait doigts. Sinon, il ne fait pas doigts. Ça, c'est un drame, ça. Ça, c'est dramatique, ça. Ça, on a créé de l'assistanat de l'idoua. Alors que Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Le cœur du croyant doit être avec Allah, doit demander doua tout le temps. Et nous, on a tellement habitué les gens au doua en congrégation que tout seul, ils se perdent. Regardez dans le hajj. Arafat. Après, moi, ça, pour faire doua, moi, je ne fais jamais doua pour les gens. Arafat. Non, pas je ne fais pas doua, mais je ne fais jamais doua en djamal. Chacun se livre à son Seigneur. C'est grave, ça. Et ainsi de suite. Et il y a ceux qui ne savent pas faire. Il y a ceux qui font doigt, mais ils récitent. Ils récitent, ils récitent. Et le summum, c'est ce que je veux atteindre, c'est je réalise que faire doigt, c'est converser avec Allah. Si le soir, je me lève et je parle avec Allah, je dis Allah, voilà ce qui m'est arrivé. Allah, vous connaissez, telle personne m'a fait du tort, il a été malhonnête, il a fait ci, il a fait ça, ya Allah. C'est toi qui es au-dessus de lui, son cœur est dans tes mains, change son cœur. Quand on arrive à ce stade où on converse avec Allah, c'est qu'on a déjà bien avancé dans notre relation avec Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Allah nous permet de les comprendre, même si c'est parti un peu dans beaucoup de sens. Qu'Allah nous permet de nous recentrer dans cette dernière décade, de développer la foi en Allah, de demander un repentir sincère pour nos péchés et d'arrêter les péchés totalement. Qu'Allah nous permet de connecter nos cœurs avec sa parole et que la lumière du Coran entre et pénètre mon cœur et que ma vie soit orientée par rapport au contenu du livre d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah me permet de m'inspirer du modèle des prophètes alayhi salatu wassalam. Qu'Allah me permet de faire des sacrifices pour la religion. Qu'Allah me permet d'accomplir le tahajjud et toutes les bonnes actions qui nécessitent un sacrifice, mais avec cœur, recherche de son agrément, amour d'Allah, crainte d'Allah avec tous les a'malul quloub, et qu'Allah me permet d'ouvrir mon cœur à lui dans mes invocations, parce que le prophète me dit que ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'acte d'adoration par excellence. Si j'arrive à travailler ces 7 actions, je crée une base de iman qui est forte, qui est solide, mais qui nécessite beaucoup de connaissances religieuses, beaucoup d'efforts d'apprentissage, et là vous y placez n'importe quelle bonne action, ce sera propulsé à des hauts niveaux et il y aura al-istiqama, la fermeté, et il y aura la halakum tattakhun ou pas. parviendra à la piété qu'Allah Azza wa Jal accepte ce majlis. Ce qui a été dit pénètre nos cœurs, ce qui n'a pas pu être dit pénètre nos cœurs également bi qudratillah Azza wa Jal, et que ce mois de Ramadan inshallah, sur cette décade là j'accomplis les bonnes actions avec cœur et que je reste ferme sur mes bonnes œuvres, istiqama, tout comme je reste ferme dans l'abandon des péchés et que j'arrive à m'en remettre totalement à Allah Azza wa Jal, et qu'Allah m'accepte pour accomplir au quotidien les bonnes actions qui me permettent de trouver son aide et sa nusra ma tawfiqi illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.